présentation concerne aussi égale dans toutes les présentations de, des entretiens du patrimoine, ça concerne Marseille, tandis que par ailleurs il y a des conférences sur bien d'autres sujets. Et pour Marseille ce soir, après une première présentation qui a eu lieu récemment, faite par notre confrère Clarac, sur un personnage marseillais d'il y a 3 siècles, qui s'appelait Plumier, et qui avait fait énormément, notamment dans la botanique, eh bien, ce soir, c'est une présentation plus minérale, c'est une présentation de ce bâtiment que vous devez tous connaître, qui est la maison de l'échevin de Cabre. Cette maison, que vous voyez sur le plan dans le cercle rouge, ça vous devez le voir même du fond, eh bien, elle a subi, elle a fait un voyage, pas très long, il y a de ça un peu plus de 50 ans. Vous l'avez vu, madame? Ah, voilà, je crois qu'il y en a plusieurs. Hein, que, Alors, cette maison fait partie de ce qui a échappé à une destruction systématique dans Marseille depuis très longtemps. En effet, après le passage Prosper-Mérimée en 1835-37, avec une proposition de protection sur certains édifices qui l'avaient particulièrement marqué à Marseille, c'est-à-dire la cathédrale ancienne, c'est-à-dire Saint-Victor, église et crypte, c'est-à-dire les caves de Saint-Sauveur, qui aujourd'hui ont pratiquement entièrement disparu, qui sont, pour ce qu'il en reste, très peu, sous la rue Caisserie, en contrebas de la place de l'Ange. Il propose la protection de ces 3 lieux, et puis après, c'est calme plat, jusqu'au début du XXe siècle, ou période à laquelle l'État va demander que la cathédrale, la nouvelle cathédrale de Marseille, soit elle aussi protégée. Et puis à nouveau un silence. Et puis ça n'est que après la Première Guerre, dans une période où les projets d'aménagement, d'extension de ville sont devenus les outils indispensables, pense-t-on, et en tout cas appliqués, eh bien à ce moment-là, on va commencer à protéger des bâtiments plus petits, plus isolés, et dans ces bâtiments, il y aura notamment la maison de l'échevin de Cabre, qui viendra juste après la protection de la maison diamantée, et qui viendra aussi après une protection de certains édifices religieux. Nous sommes là, donc, entre la Première Guerre et la Deuxième. Et nous sommes dans cette période où Marseille veut à tout prix son plan d'aménagement. Depuis la fin du XIXe siècle, comme vous savez, sont prévus de très grands ensembles, soit dans le secteur de la Bourse, le secteur Sadi Carnot, le secteur de l'Hôtel de Ville. Et tout ça va être proposé, va passer en conseil municipal, mais la discussion très intense entre les édiles marseillais, entre la Chambre de commerce et un certain nombre de responsables du port, par exemple, vont faire que ça ne va pas être mis en application tout de suite. Dans cette période, on commence quand même à dégager les terrains de la Bourse, vous savez, les premières démolitions, juste avant la guerre de 14, qui va amener des découvertes qu'on a retrouvées depuis. Et donc c'est de cette époque-là que date la vraie découverte des éléments de la ville gréco-romaine qui ont été dégagés sur 150 mètres et puis qui après, qui ont été dégagés, qui ont été visités et qui sont restés pendant donc une longue période sous ce sol qui a servi à la fois à la fête foraine et diverses choses à l'emplacement de l'actuel site du Centre Bourse. Et puis arrive la période de la Deuxième Guerre, juste avant on entreprend une deuxième vague de démolition, et donc on repère encore mieux tous ces éléments de la ville ancienne, Et puis donc avec la guerre, eh bien la situation va devenir très différente. Parce que en effet, Marseille va avoir immédiatement après la l'évacuation des populations du Panier, une situation où on veut à tout prix aménager les quartiers où se trouvent ces immeubles qui seront ensuite démolis au quartier du Panier. Et donc, on veut, à cet emplacement, bâtir une ville autre. Une ville qui n'est plus celle en relation avec le parcellaire, toutes ces petites parcelles. Fini. On ne pense plus qu'à des grands ensembles, des grands îlots. Et donc, cette idée qui va cheminer va être proposée par plusieurs architectes, architectes en chef, inspecteurs généraux, notamment, ça sera le cas à partir des années 45 pour le ministère de la Reconstruction. Et dans tout ce mouvement, eh bien, la protection ou la prise en compte de la dimension historique du cœur de la ville va être une chose qui ne va pas être facile. Parce que à cette époque-là, bon, la démolition des immeubles, déjà, les Allemands avaient demandé toute une zone donc de démolition, des négociations vont avoir lieu. Et on va considérer qu'on fera dans le cœur de cette zone délimitée, mais que peut-être on pourrait garder tous les immeubles qui sont en front de mer sur l'actuel quai du port. Ceci donc ne va fonctionner qu'un temps. Et puis on va avoir de nouvelles idées, on va s'apercevoir que finalement la ville, c'est non seulement la zone du vieux port, c'est la zone, donc, comme je vous en parlais, de relation avec le secteur de la gare. C'est éventuellement des zones pour permettre de loger les gens qui ont été bousculés et qui ont dû quitter leur maison, comme ça a été fait à ce moment-là jusqu'à Montredon. Et donc, on avance de mois en mois avec une adaptation des idées et en fonction, bien évidemment, de la pression et du rôle des personnes qui ont à voir avec un futur aménagement. Et puis, ben, on va se retrouver avec, bien sûr, des mesures indispensables. C'est le cas de la protection du vieux port, parce que le vieux port était une zone plus considérée comme une zone de transit. Heureusement, les pêcheurs se sont mobilisés. Ils ont empêché qu'on y installe ce qui était jusqu'à présent les J1, J2, J3, J4. C'est-à-dire les hangars pour le départ vers notamment l'Afrique du Nord, le sud donc de la Méditerranée. Et donc la demande c'était d'amener tous ces bâtiments à l'emplacement des consignes sanitaires et donc d'avancer avec. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, vous voyez ce quai aussi large. Parce qu'on pensait qu'on a... Alors l'ingénieur en chef des ponts et chaussées maritimes va réussir quand même à faire un certain nombre d'opérations, donc d'élargissement, mais à cause du blocage par la population, et notamment par ceux qui utilisent bien sûr le plan d'eau, eh bien il ne va pas y avoir à ce moment-là la mise en place de ces constructions. Et en même temps, on a une organisation, une nouvelle organisation de la ville, qui va devoir, avec bien sûr ces nouvelles responsabilités qui reviennent, qui reprennent et qui ne sont plus de la même nature, le directeur des services techniques de l'époque va proposer lui-même une organisation très volontaire de ce que doit être, de ce qu'il pense pouvoir faire passer au niveau donc de la reconstruction du vieux port. Ce directeur général des services techniques qu'on a connu encore très récemment à Marseille d'ailleurs, c'est lui qui a fait sauter l'idée de conserver les bâtiments en front de mer, qui a considéré que, non, après un examen de tous ces bâtiments, ils n'étaient pas en état, c'était indigne de ce que pourrait être un projet d'aménagement de qualité. Alors, pendant ce temps-là, s'organiser le concours, s'organiser la consultation de tous ces architectes, de ces groupements d'architectes qui vont... Après donc des ententes qui ont finalement assez bien fonctionné dans beaucoup de cas, être responsable par secteur, en particulier toute la zone nord du Vieux-Port. Et dans cette zone nord du Vieux-Port, eh ben, se trouve la maison de Cabre. Alors, la maison de Cabre, ce n'était pas l'élément principal. Hein. Donc, on va, pendant pas mal de temps, l'avoir rayée du plan. C'est à partir des années 30, où finalement, il n'est pas considéré comme étant un élément ayant valeur exceptionnelle. Et on va avancer avec ces projets qui viennent faire, amènent des voiries rayonnantes autour de l'hôtel de ville, autour de l'hôtel Dieu. Et puis, tout ça va nous amener donc au moment de la guerre. Le plan donc de Grébert, qui était le plan mis en application à cette époque, puisque c'était lui qui avait été chargé depuis les années 30 de faire le plan d'aménagement et d'extension de Marseille, eh bien, il va, ce plan, progressivement disparaître de la circulation et être repris en partie par Baudouin, qui a été désigné, et qui va devenir lui-même donc l'architecte urbaniste du projet d'extension et de reconstruction sur le centre de Marseille. Des dessins sont faits, ces dessins vont être discutés, et c'est là où des immeubles vont être proposés. Bon, on va en garder quelques-uns, négociations avec les Allemands par le service des monuments historiques, ils veulent tenir d'en garder un peu plus, et puis donc on arrive à la libération, donc dont j'ai commencé à parler tout à l'heure, et de cette époque date la plupart des images que vous allez voir maintenant. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce rappel de ce qu'est ce contexte. Alors, la maison de Cabre, c'est un bâtiment qui nous vient non pas du fond des âges, mais presque, puisque, en fait, il est tout à fait dans la tradition de la fin du Moyen-Âge, hein, de cette période gothique. Voilà, donc, voilà le bâtiment qui, tel qu'il était au moment où il s'agissait de le sauver. Et ce qu'on a fait, c'est que par rapport à sa situation actuelle, donc, c'est là où on a décidé de le tourner, après avoir décidé de le démolir. Et il a fallu négocier longtemps pour faire qu'on accepte qu'il y ait une entente. Alors, beaucoup de photos sont donc, bien sûr, de juste après la guerre. Passons. Voilà, donc, il a échappé aux destructions du quartier, c'est le plus ancien édifice civil, parce que de cette période dataient quand même de nombreux bâtiments qui étaient des bâtiments civils, et non pas les bâtiments religieux, qui, eux, sont passés à travers les âges avec moins de difficultés. Et juste à côté de l'hôtel de Cabre, il y avait d'ailleurs un autre immeuble presque aussi ancien, bon, qui lui a disparu corps et bien. Alors, c'est des questions qui vont être posées. Par exemple, dans les années 1920, ce qui va se passer, c'est que, voyant l'application de cette nouvelle loi sur les plans d'extension des villes, on va s'inquiéter de la position de certains édifices. Alors, là, ça vient en général au niveau de l'État, que les décisions peuvent être prises. Alors, en fonction des demandes d'associations, de groupements de personnes, eh bien, dans les années 20, on va proposer, un, de protéger l'hôtel de l'échevin de Cabre. Deux, la chapelle de la Vieille Charité, toute seule. Trois, le palais d'Aviel. Et puis quatre, il y avait un très bel escalier, rue de la Reynarde, qui, elle, n'est plus de ce monde, et qui donc voilà les quatre éléments sur lesquels il y a eu un travail qui a été fait pour essayer d'obtenir des protections. C'était entre 1920 et 1927. Et finalement, l'hôtel de Cabre, lui, va être pris en compte. La chapelle de la Charité, il faudra attendre les années 50 avec l'hospice pour qu'on la voie protégée. Et puis, les autres bâtiments sur Marseille, eh ben, ils vont arriver seulement, disons, avec un certain décalage. Fortification, c'est les années 60. C'est-à-dire que Marseille ne s'était pas précipitée pour... elle n'a jamais eu tempérament d'une ville ou d'une ville ancienne. Et d'ailleurs, ce qui était tout à fait typique, c'est qu'au moment de la reconstruction, la plupart des villes qui avaient été bombardées, notamment les villes du nord, de l'ouest, etc., ont voulu qu'on reconstitue le paysage qui était leur paysage et qu'ils s'étaient approprié. Mais à Marseille, on a dit, bon, non, ce n'est pas une demande d'ici. Non, je crois qu'il vaut mieux voir vers l'avenir. Et donc les premiers maires qui vont venir vont effectivement épouser cette idée que hein, il faut que ça soit une présentation un peu plus décharnée, sans tous ces éléments de décor hein, qui viennent surcharger les façades. On est allé même très loin, puisque les bâtiments du bout du quai du Port, tels qu'on le voit de Pouillon, les derniers qui n'ont pas les toits, était l'exemple de ce qui devait se faire tout le long du quai du Port. Alors il y a eu quand même un mouvement répété pour dire non, mais faut quand même faire un effort. Et c'est comme ça que donc Pouillon est entré dans le jeu et avec ses propositions a pu après faire, enfin, a fait une proposition qui a été acceptée et qui est celle qu'on voit aujourd'hui. Alors l'hôtel de Cabre lui-même, on en a des dessins. Depuis le début du XXe siècle. C'est le cas de ce dessin qui se trouve dans un ouvrage qui est un ouvrage de référence à Marseille, qui est Marseille à travers les âges, hein, d'Octave Tessier, et où donc on voit ce dessin précis de l'ensemble des moulurations. Alors vous voyez, on est dans une forme qui est plus des fenêtres renaissantes, mais en même temps avec des décors à certains endroits, notamment décor d'angle qu'on verra mieux tout à l'heure, hein, qui rappelle effectivement l'extrême fin du gothique. Donc, je me suis appuyé sur un certain nombre de ces représentations. Il y a eu ensuite, après celui-ci, celui qu'on va voir, voilà, qui est le dessin d'un architecte mémorable en France, qui est Albert Laprade, qui donc a fait comme ça des dessins de bâtiments, donc à main levée, on peut dire, dans des dizaines et des dizaines de pays. Et voilà ce qu'il avait traduit pour la maison de Cabre à Marseille. Et puis, toujours dans cette période, mais là on est carrément juste à la fin de la guerre, un dessin d'un architecte de la ville qui a dessiné le bâtiment tel qu'il était vers la fin de la guerre, c'était en 1900, avril 1944. Et donc, qui est un dessin qui pourra être utilisé après par le service des monuments historiques au moment de prévoir donc le déplacement et la remise en état du bâtiment. Passons. Voilà, alors donc cet élément qui lui semble être quand même un de cette influence gothique directe. Bon, c'est un élément isolé sur le bâtiment. Et puis, il y a aussi des restes au niveau de l'ensemble des moulurations, avec des éléments de décor, comme vous voyez ici, qui normalement doivent rappeler la famille, puisque c'était la tradition dans les maisons anciennes, hein, de représenter sur la façade le propriétaire et sa femme, et donc d'être en relation, de rester en relation avec l'esprit en fait qui avait présidé à la construction du bâtiment. Passons, voilà, hop, bon. Voilà, alors donc, pourquoi il y a eu toute cette difficulté pour conserver la maison de Cabre, on passe au dessin d'après, c'est parce que on considérait que la nouvelle voie qui passait entre l'Hôtel Dieu et l'Hôtel de Ville devait absolument donc avoir la largeur nécessaire, telle qu'on l'a considérée, et donc l'Hôtel de Cabre était carrément, lui, dans l'emprise de cette nouvelle voie prévue. Donc, à partir de là, la discussion va être quand même très, très complexe parce que cet immeuble est en plein milieu, que, il y a déjà des projets qui ont avancé, on a confié à ces équipes d'architectes hein, ces réalisations à faire, et puis ça a démarré. C'est-à-dire que au moment où on va toucher au bâtiment, il y a déjà les constructions qui sont à l'arrière, élevées sur 4 étages, et donc le principe c'est de faire accepter de conserver le bâtiment dans la mesure où on va pouvoir le tourner de 90 degrés et donc bien sûr trouver la manière de le faire. Alors le bâtiment était évalué à 650 tonnes environ. Pour donner un ordre de grandeur, l'Arc de Triomphe fait 1500 tonnes. Parce qu'il a été question aussi à une époque de déplacer l'Arc de Triomphe pour le mettre dans l'axe de l'arrivée de l'autoroute. Bon. C'est un projet qui depuis a été abandonné.
Oui, puisque l'autoroute est arrêtée.
Bon, donc, passons. Et donc, cette, on passe aussi, là, donc ça c'est un rappel. Voilà donc une élévation, hein, elle fait voir quand même la qualité hein, de toute cette sculpture. Et c'est vrai que c'est un édifice unique. Alors il date, pense-t-on, à cause d'une inscription qui est à côté de, sur l'angle de l'immeuble, donc 1535, c'est-à-dire une période où, en France, on va radicalement passer à la période Renaissance. Vous savez qu'à Marseille, on a un élément extrêmement ancien de la Renaissance, qui est donc le tombeau de Lorana, qui est dans la vieille major et qui a été exécuté. Donc l'ensemble de la sculpture a été exécuté dans les années 1480, alors que, bon, c'est-à-dire d'une manière très contemporaine de l'Italie. Alors que pour le reste, bon, ben nous, la Renaissance, c'est plutôt à partir de 1500, et puis après, plus tard, dans les premières dizaines d'années. Voilà, oui, alors la grande sculpture de Lorana, qui pose problème, parce que pendant longtemps, l'ambiance autour du lieu a été très humidifié et depuis maintenant plusieurs années, il y a un traitement en cours, parce qu'on s'est aperçu que c'est un édifice qui n'avait pas été conçu de toutes pièces au départ, mais qui avait été fait avec la réutilisation de beaucoup de grands fragments de marbre, notamment de colonnes, et que donc, sans doute, ces colonnes, comme la major est juste au-dessus de la mer, que beaucoup de ces marbres avaient pu rester immergés dans l'eau salée, et qu'aujourd'hui, il fallait faire dégorger, et donc essayer d'arrêter une pulvérulence qui, bien sûr, amenait progressivement des squamations, etc., de l'ensemble de ces éléments en marbre. Donc, tout ça est en cours. C'est une opération qui est menée principalement par le Centre international de conservation et restauration, qui est à Marseille, qui est un centre interrégional du CICRP. Et donc, voilà, un travail qui avance et qui pourra être présenté d'ici quelques années, pas trop, on espère, en liaison avec la réouverture de la vieille major, qui elle aussi, donc, maintenant, qui appartient à l'État, et avec lequel il faudra trouver les conditions pour que cet édifice puisse être à nouveau accessible. Passons. Là, il est là. Bon, donc voilà, autant d'éléments sculptés, tels qu'on les trouve sur ce type d'édifice, mais on va en venir à notre problème du jour, c'est-à-dire le déplacement. Bon, alors là, c'est le rappel. Je vous laisse lire, un peu, hein, quand même. Tout ça, bien sûr, se rattache à toutes ces informations publiées, notamment dans la revue Marseille, où il y a eu un numéro, il y a 2 ans, sur un siècle d'architecture à Marseille. Alors, on a même prévu, à un moment donné, de faire de la maison de cadre l'Agence des bâtiments de France. Bon, puis finalement, ça ne s'est pas fait, mais c'était une manière pour le service des monuments historiques d'essayer de bien tenir l'édifice... Ne pas le voir disparaître. Un certain nombre d'articles sont parus périodiquement depuis la guerre dans la revue Marseille. Et donc, périodiquement, on a eu effectivement une information qui a été donnée sur l'état de l'édifice au moment où, dans les années 40, 46, puis ensuite plus tard. Voilà. Et donc, on commence, au niveau de l'édifice, par s'inquiéter de la sécurité. C'est-à-dire qu'avant de prendre une décision irrémédiable, on va essayer de consolider l'ensemble des éléments qui constituent l'édifice. Et donc, cela va se faire, vous voyez, dans les années 48, dans la mesure où il s'agissait de maintenir une forme quand même présentable au lieu. Et puis, donc, dans cette période, l'architecte en chef du monument historique, qui à l'époque est Paul Collas, eh bien, il décide de faire démonter la partie sommitale de l'édifice, en considérant que le porte-à-faux et la manière dont l'irrégularité des mortiers rendrait très fragile l'ensemble, donc certaines parties hautes ont été à ce moment-là démontées. Puis un chaînage béton a été fait, comme on le fait habituellement, bien sûr, à chaque niveau, et donc pour maintenir la structure un peu à la Marseillaise. Vous savez que les Marseillais, 18e siècle par exemple, avaient des immeubles avec, comme à Aix d'ailleurs, avec des tyrans, dont vous voyez les croix encore présentes à l'extérieur sur certains immeubles, dans le quartier Belzins notamment. Et donc ces tyrans faisaient que l'immeuble pouvait bouger par niveau et prendre une forme différente. Et donc ça, c'était l'élasticité, en quelque sorte, originale, hein, de ces immeubles de cette période classique. Ensuite, donc, à partir de 51, donc là, on avait effectivement fait ce chaînage, donc on avance dans l'opération au niveau de la conservation, et on continue à s'interroger sur ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va le déplacer? Est-ce que finalement on va le démonter complètement et le remonter, hein? À cette époque-là, c'était une question qui était posée. L'inquiétude de l'architecte en chef du monument historique, c'est de voir que Perret, qui avait été désigné, ne semblait pas prendre en compte, comme son prédécesseur, qui était le comte, donc l'édifice dans le cadre du plan général d'aménagement. Alors, ça fait partie de ces périodes où c'est vrai qu'il a fallu tout de même s'assurer, par répression des uns et des autres, hein, que tout ça serait bien pris en compte. Très régulièrement, d'ailleurs, le ministère, voulant un consensus, eh bien, il déchargeait de ses responsabilités l'architecte urbaniste qui était en place, et puis il en nommait un autre. Bon, ce qui permettait effectivement au nouveau de repartir en sachant que s'il était là, c'était pour tout de même être un peu plus à l'écoute de ce qui avait été décidé au départ. Oui, hop, pas trop vite. Alors, 41 Pont-Neuf, on a plein d'aménagements, 4 maisons, 4 grandes rues, donc bon, ça on l'a vu, effectivement. On peut aller après. Alors, c'est là où se pose la question de que va-t-on faire, quelle décision va-t-on prendre? Alors, il y avait plusieurs possibilités pour, dans le déplacement, une mise en place, finalement, celle qui a été retenue, c'est qui paraissait la plus simple, avec la distance la plus courte. Hein, c'est pratiquement un tour sur lui-même, à 90 degrés, et puis se retrouver donc aligné avec la façade de l'immeuble Cherrier-Rozan, qui était à côté, et donc simplement de présenter les deux façades différemment. Voilà. Alors, c'est ça qui a été retenu, qui était la version 2, d'après ce qu'il disait. Et donc un accord est signé entre la culture qui à l'époque avait un secrétariat d'État et puis le ministère de la Reconstruction, le MRU, bien sûr. En 53, démarre le chantier de l'immeuble contre lequel il va être adossé, hein, qui est cet immeuble Cherrier-Rozan, qui voulait faire quelque chose de beaucoup plus contemporain que finalement ce qui a été fait, parce qu'il a dû hein, se limiter le geste hein, qu'il voulait à tout prix engager. Et donc, à partir de là, dans la mesure où l'alignement a été respecté, eh bien, il va y avoir une double tutelle pour le pilotage du chantier, d'une part avec les ingénieurs des ponts et chaussées, et puis d'autre part avec les architectes des monuments historiques. De toute façon. Bon, donc, pour le bâtiment dont les éléments classés étaient en fait les façades, hein, c'est, puisque l'intérieur, bon, il n'y avait plus grand élément, surtout après d'ailleurs, avoir fait le déplacement, dans la mesure où vous allez le voir, on doit découper, notamment d'abord au sol, on doit isoler le bâtiment de sa cave, donc on doit passer là, dans cette zone-là, avec la hauteur nécessaire pour pouvoir installer les vérins. Alors là, pour les manœuvres de l'édifice, voilà. Et donc, on a des chemins de roulement, et puis des chariots sur ces chemins de roulement. Donc, on démarre dans une certaine position, et il va falloir qu'on tourne progressivement pour arriver à l'autre position. Tout ça peut se faire sur un sol damé, qui a dû être comblé, on a crevé les caves des immeubles d'autour, on a tout remblayé, on a tout bien tassé, et puis on a ces rails qui ont été installés, hein, qui vont permettre effectivement de faire avancer le bâtiment. Passons. Voilà, alors donc, quoi, c'était comme ça. Oui, alors, là on voit bien de quelle façon on va changer la position, on revient à la précédente, de la 1. Voilà, il y en a une encore avant, sans doute. 2, 1, voilà. Bon, donc on voit que tout ça est au carré, et puis que, voilà, à partir de là, par exemple, le vert, dans le 2, qui a déjà tourné, et donc on se met en place pour pouvoir tirer tout ça. Passons. Voilà. Et une fois que tout ça va avoir basculé, de toute façon, voilà, on va se retrouver dans cette position-là. Alors, en 1995, j'ai reçu la visite de trois personnes très attachées à la maison de Cabre qui sont venues avec un dossier important de ce qui, de l'information qu'on avait sur le bâtiment. Et qui sont venus pour me dire, vous savez, si on pouvait faire un peu d'informations sur ce bâtiment, parce que c'est très dommage que... Alors j'ai essayé de les rappeler, mais ça fait, bien sûr, ça fait 15 ans. Alors, j'ai pas trouvé des gens au bout du fil, soit le téléphone n'était plus en fonctionnement, ou bon. Alors c'est vrai que comme ils n'étaient pas très jeunes, peut-être ils ne sont plus avec nous. Voilà, donc... je vous parlais de la manière, donc il fallait faire ce remblai, venir s'adosser au bâtiment neuf, hein, pour ensuite pouvoir tourner, parce que c'est vrai que vu le poids, vu le tassement, on est parti sur un sol qui n'était pas un sol clean, hein, dans la mesure où effectivement c'est ce qu'on fait dans les chantiers de construction, où on commence à pour pouvoir circuler, hein, se séparer de tout ce qui est pas de voûte ou etc., bon, pour être sûr, en fait, de la stabilité du sol. Et ce chantier va se dérouler pendant 113 jours. C'est-à-dire que, donc, on va démarrer au mois de mai 54, et on va aller jusqu'à la mi-septembre 54. Opération par opération, on va voir des images. Voilà. Bien sûr, il a fallu donc désolidariser pour qu'ensuite tout ça puisse avancer, tirer. Voilà. Et puis, il a fallu aussi, progressivement, pendant le chantier, venir renforcer. Il y avait bien sûr une adaptation, et c'est une entreprise scandinave qui avait été chargée, du fait de son expérience, dont le siège était à Paris, qu'on était allé chercher pour pouvoir mettre en œuvre cette décision de déplacement du bâtiment. Voilà. Alors, donc, on prépare les sols. Vous voyez le bâtiment là qui, pour l'instant, attend qu'on s'occupe de lui. Et puis, on va voir de photo en photo. Bon, alors, bien sûr, il y a des problèmes dans les murs, il y a des lézards, il va falloir y revenir plusieurs fois. De toute façon, voilà. Vous voyez un peu comment ça a été organisé de façon très précise. Donc, le damage, et puis, les chariots qui... finalement, l'opération s'est faite tout à la fin. On donne une période de 113 jours, mais c'est... dans les deux dernières semaines que l'opération elle-même a eu lieu. Alors bien sûr, l'immeuble avait dû être, il faut, comme on le fait, trisillonné, faire en sorte qu'il ne s'en aille pas. Voilà, alors donc, pas trop vite, ouais. Bon, vous voyez là, vous avez un écorché au fur et à mesure de ce qui s'est passé. Et puis, alors bien sûr, donc, murer les ouvertures, qui étaient très fragiles, les ouvertures de type ouverture à meneaux de la Renaissance. Voilà, alors les tirants, à chaque étage. Et puis, le système avec les vérins, et tout ça étant sur rail, voilà. Et voilà le bâtiment en route. Voilà, pour aller prendre sa destination. Alors là, il n'est pas encore tourné, non? Et donc là, c'est là où on va le faire riper latéralement. Voilà. Vous voyez, 15-18 septembre, on est vraiment dans les tout derniers jours, au moment où tout ça tourne et va être mis à demeure. De toute façon, voilà. Donc on voit le bâtiment Rosan, qui était déjà construit. Et puis, on va voir progressivement, voilà, le bâtiment qui tourne. Alors tout ça, c'est des photos qui existent dans des fonds très, très différents, parce que bien souvent, c'est des photos de personnes qui s'étaient intéressées à l'opération à cette époque-là. Il y en a aussi, bien sûr, aux archives municipales, il y en a aussi dans les autres conservations. Voilà, vous voyez comment le bâtiment a été tourné et est amené. Voilà, pour sa nouvelle position. Donc, là... On voit bien, on est dans la rue, dans la grande rue, qui va vers les Accoules. Et puis donc, on voit comment le bâtiment est tourné, et puis finalement est rentré, voilà, dans l'espace qu'on avait retenu pour lui. Ça, c'est une autre approche depuis le secteur, disons, Hôtel Dieu, en quelque sorte. Voilà. Voilà, on fait tourner. Voilà, puis on va le ramener. Voilà, donc, voilà ce qu'a été cette opération. Alors, après, il a fallu arbitrer dans la mesure où le ministère de la Reconstruction avait dit « Moi, je prends en charge telle chose ». Mais après, tous les travaux complémentaires, c'est au propriétaire de le prendre en charge. Et donc, comme il y avait, donc le ministère a financé, la remise en ordre de toute la structure, y compris la toiture, jusqu'aux menuiseries. Et le propriétaire, lui, devait faire son affaire à la fois du rez-de-chaussée et puis de tout ce qui devait être complété à l'intérieur par rapport aux modifications qui avaient pu être apportées. Voilà, et donc c'est un bureau d'études qui en 62 a été désigné pour faire l'arbitrage entre eux, les services de l'État et le propriétaire. Et voilà aujourd'hui ce qu'est devenu ce bâtiment. Voilà, je crois qu'on est à la fin, oui. Voilà, merci. Alors, des questions ?
Oui.
Oui.
Qui est le propriétaire ?
Oui, non, le dernier marqué, c'était Del Forno. Là, j'ai pas cherché de ce côté-là. Non, non. Absolument. Oui, monsieur.
Ce qui est choquant, c'est qu'au rez-de-chaussée, il y a un terme de coiffure. Alors, on a le critique que, étant donné que c'est une maison classée, on s'occupe des monuments historiques, on est plus toléré qu'il y ait un rez-de-chaussée modernisé.
Ce sont les façades qui sont protégées. Ce n'est pas l'intérieur du bâtiment. Et la seule possibilité qu'il y ait eu, c'est d'empêcher justement un morcellement intérieur. Ça, effectivement, l'État s'y était opposé. Mais après, en ce qui concerne l'activité, il n'y a pas eu vraiment la possibilité de... Bon, parce que c'est du domaine privé. Eh oui. D'autres questions ?
Oui, je peux vous poser deux. La première, très vite, vous avez évoqué la vieille major. Est-ce que vous avez une date prévisible de l'ouverture au moyen pénétrant ou non du tout ?
Vous savez, tout en ce moment a comme perspective 2013.
Ah, oui. Bon,
le tout, c'est que l'État suive.
Oui, c'est 2013. Voilà. Et ma deuxième question, est-ce que ça a été une protection délibérée au moment des Allemands de cette uniforme, pas de la laisser seule au milieu, ou c'est le hasard qui a fait qu'elle n'a pas été démolie?
Alors, le bâtiment ayant été.
Oui, mais c'était la guerre, je ne sais pas si c'est comme ça.
Toutes les démolitions qui ont eu lieu tout autour, effectivement, ont maintenu l'hôtel de ville, ont maintenu un certain nombre d'édifices. Et sur la photo, il se trouve que c'est cadré. Pour ne voir que ce bâtiment.
Oui,
il y en a d'autres qui ont été protégés, bien sûr, à ce moment-là.
Été protégés,
ce dans la mesure où c'était un engagement pris, voilà. Bon, pour autant, c'est sûr qu'il serait tenu.
Oui, j'ai une anecdote, si vous voulez. J'habitais à l'époque de la transmission au coin de la rue Chevalier-Rose et de la Grange. J'étais donc au premier étage, là où il y a le balcon, qui était très bien, au premier étage. Et un samedi ou un dimanche, je ne travaillais pas. Il y avait beaucoup de monde autour du chantier. Je suis descendu et il y a une dame qui était avec son mari, là, qui manifestement n'était pas marseillaise, qui me dit « Monsieur, qu'est-ce qu'on fait ici ?» Je dis « Madame, c'est pas compliqué. On prend la maison que vous avez là, on la fait transporter et puis on la tourne dans le même emploi. » Elle me dit non mais sérieusement, madame, c'est très sérieux. Alors là, elle se fâche, elle me dit, monsieur, j'ai beau ne pas être de Marseille, je ne veux pas qu'on me prenne pour une imbécile. Voilà, c'est pas compliqué, vous avez un agent qui est là, demandez à l'agent. La bonne femme prend son mari, va à l'agent, et dit, monsieur l'agent, qu'est-ce qu'on fait ? L'agent me dit, vous voyez pas qu'on met la maison là-bas. Elle croit son mari, elle lui dit, viens, il n'y a personne de sérieux à
Marseille. C'est apparu plusieurs fois. Le déplacement est paru au moment du déplacement. Mais avant, il y avait eu deux articles depuis les années 40 dans la rue Marseille sur le bâtiment lui-même.